Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 28 et le thème sera « Combattre l'amertume ». Je dois juste dire ceci, excusez-moi, une toute petite prière. Seigneur, permets que le Saint-Esprit s'empare de ma bouche, de mon esprit, pour arriver à faire cette étude correctement. Merci Seigneur. Chers amis, la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 19, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Romains 12, verset 19. Quelques anecdotes de Edward John Carnell disent ceci. Nous ne pouvons fermer les yeux sur les actes inconvenants d'autrui, cependant, nous ne pouvons pas non plus exécuter la sentence prévue par la loi. Nous n'avons pas le droit de boucler la boucle morale. Pour nous élever contre l'injustice, la pureté de notre vie morale est mise à mal dès l'instant où nous tentons d'administrer la justice. Le souffle vicié de l'amertume, qu'elle soit durable ou ponctuelle, ne peut survivre au sentier aérien de la foi dans la grâce à venir. Les rancœurs se nourrissent des brumes de l'apitoiement sur soi. Elles ne peuvent donc survivre au contentement, à la confiance et à la plénitude de joie que l'on éprouve lorsque on trouve sa satisfaction dans le Dieu du pardon, le Dieu de la grâce à venir. Chers amis, qu'en est-il de la foi dans la justice à venir? Le jugement de Dieu à l'encontre de nos ennemis est-il un acte de grâce à venir envers nous? C'est là une question essentielle, car l'objectif de ces CD, c'est de nous aider à combattre l'incrédulité et à vaincre le péché par la foi dans la grâce à venir. Je constate dans le Nouveau Testament qu'un des moyens les plus efficaces de triompher de l'amertume et de l'esprit de vengeance, c'est d'avoir foi dans la promesse selon laquelle Dieu réglera leur compte à tous ceux qui nous font souffrir, de sorte que nous n'avons pas à le faire. Le Nouveau Testament enseigne que pour être libérés de tout esprit de vengeance, nous devons faire confiance à Dieu pour nous venger si cela est nécessaire. Ma question est donc la suivante. La foi dans la vengeance de Dieu est-elle un exemple de foi dans la grâce à venir ou s'agit-il seulement de foi dans la justice à venir? Ma réponse est que la foi dans le jugement de Dieu est une autre forme de foi dans la grâce à venir. Par conséquent, vivre par la foi dans la grâce à venir, cela suppose de vaincre l'esprit de vengeance et l'amertume en faisant confiance à Dieu pour régler avec justice tous nos différends. Je répète, par conséquent, vivre par la foi dans la grâce à venir suppose de vaincre l'esprit de vengeance et d'amertume en faisant confiance à Dieu pour régler avec justice tous nos différends. Arrêtons-nous quelques instants sur la promesse divine de justice à venir. Nous avons dans die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 18, une description du jugement de Dieu qui s'abattra sur les puissances antichrétiennes du monde. Ces puissances sont appelées tantôt Babylone pour indiquer leur animosité envers le peuple de Dieu, tantôt la grande prostituée en référence à leur immoralité. Voilà donc pour le chrétien une grande tentation de céder à l'amertume et à la colère. En effet, ses ennemis méprisent ces lois de Dieu par leur immoralité et ils répandent le sang des chrétiens. Qui plus est, ils refusent jusqu'à la fin toute repentance. Voici ce qu'on peut lire sous la plume de Jean, donc l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse à propos de Babylone. « Chez toi, on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu. Elle est la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches. » Et elle lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Apocalypse chapitre 18, verset 24 et chapitre 19, verset 2. Comment les chrétiens sont-ils censés réagir à cette immoralité et à cette persécution ? Voici le commandement que Jésus nous a laissé ici-bas. Il a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. Et pour quelle raison ? Ainsi vous, vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. C'est Matthieu chapitre 5, verset 45. Tout au long de notre vie sur cette terre, Dieu accorde de nombreuses bénédictions à tous ceux qui font preuve d'immoralité et de cruauté. L'apôtre Paul déclare aux non-juifs qui n'avaient jamais entendu parler du vrai Dieu. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. Actes chapitre 14, verset 17. À travers tout cela, Dieu manifeste des trésors immérités de bonté, de patience et de générosité, qui devraient conduire les nations à la repentance. Romains chapitre 2, verset 4. Or Jésus nous donne pour commandement d'imiter notre Père céleste, par la même attitude. Vous, au contraire, aimez donc vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père, il est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Saint Luc chapitre 6, versets 35 et 36. Effectivement, tant qu'il y a de l'espoir concernant la conversion de nos ennemis, nous devrions partager ce sentiment de l'apôtre Paul. Le vœu de mon cœur, dit-il, c'est que ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est ça ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Romains chapitre 10, verset 1. Si nous sommes persécutés à cause de notre foi, nous devons tendre l'autre joue, Saint Matthieu chapitre 5, verset 39. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent, Saint Luc chapitre 6, verset 28, et ne pas rendre le mal pour le mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15, et 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Mais si possible, nous devons vivre en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Oh, je suis d'accord que c'est plus vite dit que fait. Chers amis sur Internet, vous pouvez écouter tout ce qui concerne la fin des temps, y compris le fameux chiffre 666. Mais revenons à notre étude. Toutefois, le moment viendra où la patience de Dieu aura atteint ses limites. Lorsque Dieu jugera que la souffrance de ses enfants a duré le temps fixé et que le nombre des martyrs sera au complet, selon Apocalypse chapitre 6, verset 11, alors la vengeance s'abattra du ciel. Voici comment l'apôtre Paul décrit ce qui se passera. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 8. Notez ici que la vengeance de Dieu sur nos ennemis est annoncée comme étant vécue par nous comme du repos. Autrement dit, le jugement sur ceux qui nous font souffrir est une forme de grâce envers nous. Jésus enseigna une vérité analogue dans la parabole du juge inique. Il raconta en effet l'histoire d'une veuve qui venait constamment trouver le juge pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire. » Saint Luc, chapitre 18, verset 3. Pour finir, le juge se laissa infléchir et lui accorda ce qu'elle demandait. Voici donc l'interprétation que Jésus a donnée ensuite de cette histoire. Alors, vous pouvez supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crie à lui jour et nuit, et qui tardera à leur venir en aide. Vous pouvez supposer cela, mais moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Saint-Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Donc là encore, le jugement à venir que Dieu infligera à ceux qui s'opposent à ses enfants est présenté comme un soulagement semblable à celui vécu par une veuve dans la détresse. Le jugement à venir que subiront les ennemis de Dieu est présenté comme étant une grâce à venir pour les enfants de Dieu. L'exemple le plus remarquable d'un jugement présenté comme une grâce, c'est sans doute la destruction de Babylone telle qu'elle est décrite en Apocalypse chapitre 18. Au moment où elle est détruite, voici qu'une voix forte retentit du ciel et s'écrie « Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous, croyants apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. » Apocalypse 18, verset 20. Puis c'est une foule immense que l'entend s'exclamer « Alléluia ! Loué soit notre Dieu ! C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et elle lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Apocalypse chapitre 19, versets 1 et 2. Lorsque la patience de Dieu sera arrivée à son terme, que ce siècle sera terminé et que le jugement frappera les ennemis des enfants de Dieu, les chrétiens ne désapprouveront pas du tout la justice de Dieu. Oh non, ils se prosterneront pas contre lui. Oh, au contraire, l'apôtre Jean les appelle à se réjouir et à s'écrier tous « Alléluia ». Par conséquent, la destruction finale des impénitents, elle ne sera pas vécue comme une tristesse par les enfants de Dieu. Non, non, non. La joie des chrétiens ne sera pas l'otage du refus de se repentir du reste de l'humanité. L'enfer ne parviendra pas à manipuler le ciel afin d'y semer la tristesse. Ça non plus. Le jugement de Dieu sera approuvé et les chrétiens vivront comme une grande grâce que la vérité obtienne gain de cause. Jonathan Edwards commenta le verset d'Apocalypse chapitre 18 verset 20 en ces termes. Il a dit, en effet, les saints ne sont pas appelés à se réjouir de ce que leur esprit de vengeance soit satisfait, mais de voir la justice exécutée et de constater l'amour et la tendresse de Dieu à leur égard, manifestée par sa sévérité à l'encontre de leurs ennemis. C'est sur ce point qu'insiste Apocalypse chapitre 19, verset 2. Ces jugements sont vrais et ils sont justes. Ainsi la réponse d'Edwards à notre question est que le jugement final de Dieu est véritablement une grâce à venir pour les enfants de Dieu. Voici ce qu'il écrit. Afin d'illustrer le grand amour de Dieu pour ses enfants, l'Écriture indique souvent que sa colère est particulièrement forte lorsque on leur fait du tort ou on leur fait du mal. Le Christ a en effet promis, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Saint Matthieu chapitre 18, verset 6. Mes chers amis, cette grâce à venir, que sera le jugement de Dieu, elle nous est promise comme étant un moyen destiné à nous aider à vaincre l'esprit de vengeance et d'amertume. Par exemple, l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 12, versets 19 à 20. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit : à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, eh bien ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Le raisonnement de l'apôtre Paul, c'est que nous devrions pas du tout chercher à nous venger, car la vengeance, elle appartient uniquement au Seigneur. Et pour nous, insister à renoncer à nos désirs de vengeance, il nous laisse une promesse, oh oui, et nous savons que c'est une promesse de grâce à venir. Il dit, c'est moi, oui c'est moi, votre Sauveur et Seigneur, qui rétribuera, nous dit le Seigneur. La promesse qui nous libère de l'esprit de rancune, d'amertume et de vengeance, c'est la promesse que Dieu nous fera justice, sans aucun doute. Il le fera de façon plus juste et beaucoup plus complète que nous ne pourrions le faire. Il est donc préférable de ne pas nous en mêler et de laisser Dieu agir. Pourquoi cette promesse est-elle à ce point essentielle pour nous aider à vaincre notre tendance à l'amertume et à la vengeance? Parce qu'elle apporte une réponse à l'un des plus puissants désirs à l'origine de la colère, un désir qui n'est pas complètement négatif. Je vais illustrer mon propos par une expérience vécue. Un soir, oh, il y a fort longtemps, un soir, tandis que nous discutions du pardon et de la colère, une des jeunes épouses a expliqué qu'elle n'était pas apte ni prête à pardonner à sa mère pour quelque chose qu'elle lui avait fait pendant son enfance. Nous avons alors évoqué certains des commandements et avertissements que l'on trouve dans la Sainte Bible concernant le refus de pardonner. Soyez bon et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 15. Notez aussi Saint Matthieu, chapitre 18, verset 34 et 35. Saint Marc, chapitre 11, verset 25. Saint Luc, chapitre 17, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Mais cette femme, cette épouse, ne voulait absolument rien savoir. Alors je l'ai averti que c'était son âme même qui pourrait être en danger si elle persistait dans une telle attitude de rancœur et d'amertume. Et malgré tous nos efforts, elle est restée catégorique sur son refus de pardonner à sa mère. Oui, ça peut arriver. Personnellement, j'avais de quoi de pardonner, c'est-à-dire de ne pas pardonner, excusez-moi, à un père qui s'est marié 5 fois et qui nous a battus tous les jours, que les marâtres m'ont battu parfois à mort, m'ont privé de manger, que j'ai pu faire seulement 4 ans d'école primaire et que j'ai dû fuir à l'âge de 13 ans pour sauver ma vie. Croyez-moi, il y a de quoi de ne pas vouloir pardonner à un tel père. Il y a de quoi. Eh bien, figurez-vous que le Seigneur m'a donné la grâce, appelons-la la grâce à venir. Quand j'avais terminé mon école de recrue comme sanitaire, d'aller trouver mon père et de lui pardonner. C'est une très longue histoire, mais continuons notre thème. Vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui ont de la peine à pardonner. Mon grand frère, il est mort de rancune. Il y avait de quoi. C'est épouvantable. Chers amis, si la colère a besoin de s'exprimer avec tant de force dans ces cas-là, c'est parce que nous sommes absolument persuadés que celui qui nous a fait du mal ne mérite au fond pas le pardon. Il ne le mérite pas. Autrement dit, notre grief, c'est, il est si profond et si justifié en sorte, en quelque sorte, que notre indignation est renforcée non seulement par notre autosatisfaction spirituelle, mais aussi par le sentiment légitime d'avoir été outragé moralement, sans compter physiquement. C'est ce profond sentiment de légitimité qui donne à notre amertume ce caractère irrésistible et inflexible. Nous avons l'impression que ce serait commettre une faute énorme que de fermer tout simplement les yeux sur la gravité du préjudice que nous avons subi et de passer l'éponge. Nous sommes tiraillés entre notre sens moral qui nous dit que l'on ne peut laisser passer ce mal et la sainte parole de Dieu qui nous commande de pardonner au garder rancune. C'est douter du juge. Dans son livre d'une grande clairvoyance intitulé Christian Commitment, Edward John Carnell a décrit ce conflit entre l'outrage moral et le pardon, le qualifiant de dilemme judiciaire. Je cite, nous ne pouvons fermer les yeux sur les actes inconvenants d'autrui. Cependant, nous ne pouvons pas non plus exécuter la sanction prévue par la loi. Nous n'avons pas le droit de boucler la boucle morale. Bien que nous n'éprouvions pas la moindre inhibition spirituelle pour nous élever contre l'injustice, la pureté de notre vie morale, elle est mise à mal dès l'instant où nous tentons d'administrer la justice. Le problème, c'est que l'indignation que nous éprouvons prend généralement le dessus et se cramponne au tort qui nous a été fait, car il serait moralement détestable de minimiser le mal. Nous voyons à présent pourquoi la promesse biblique du jugement de Dieu est tellement essentielle pour nous aider à réprimer ce profond désir de vengeance. Elle nous donne en effet un moyen de sortir de ce dilemme judiciaire. Si Dieu intervient pour faire vengeance, c'est à la fois pour nous permettre de mesurer pleinement la faute commise, mais aussi pour nous éviter d'avoir à jouer nous-mêmes le rôle du juge. La vengeance promise par Dieu prive de légitimité morale nos désirs personnels de réparation. Voilà ce que nous dit la promesse de Dieu. Oui, tu as été victime d'un préjudice. Oui, cela mérite d'être sévèrement puni. Oui, la personne en cause n'a pas encore reçu cette punition. Mais non, tu n'as pas le droit d'infliger toi-même la punition, ni de passer ton temps à souhaiter la vengeance personnelle. Pourquoi? Mais parce que Dieu veillera à ce que justice soit faite, tu peux me croire. C'est à Dieu qu'appartient la rétribution. Tu ne peux pas faire mieux que lui en matière de justice. Il voit le mal qui t'est fait sous chaque angle, donc bien mieux que toi. Oh oui, la justice qu'il exercera sera beaucoup plus approfondie que tout ce que tu pourrais faire toi-même. Garder rancune, c'est en quelque sorte de douter du juge divin, de douter de notre papa Dieu. C'est ce que déclare la promesse de Romains chapitre 12, verset 19. Par conséquent, en présence de quelqu'un qui est heurté et en colère, il convient, en fait, de lui demander s'il croit effectivement ce que dit cette promesse. En d'autres termes, l'abandon des rancœurs est avant tout une question de foi. De foi, oui, dans les promesses de la grâce à venir que Dieu nous a faites. La grâce à venir du jugement qui frappera tous ceux qui nous ont fait du mal. Si nous croyons cette promesse de Dieu, à moi la vengeance. Oui, c'est moi qui rétribuerai. Eh bien, nous ne rabaisserons pas Dieu par nos piètres efforts visant à améliorer sa manière de faire justice. Nous le laisserons de s'en charger et nous vivrons dans la liberté que procure l'amour envers nos ennemis, qu'ils se repentent ou non. Et s'ils ne se repentent pas, eh bien Thomas Watson a très bien répondu à cette question-là. Écoutez bien. Nous ne sommes nullement tenus de faire confiance à un ennemi. En revanche, nous sommes tenus de lui pardonner. Ce n'est pas sur nous que repose la responsabilité de la réconciliation, mais il nous incombe de la rechercher. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez donc en paix avec tous les hommes. Romains, chapitre 12, verset 18. L'apôtre Pierre montre que Jésus apporta lui-même une réponse identique à ce dilemme judiciaire. Nul n'a subi de préjudice plus grave que Jésus. Chaque once d'animosité à son encontre était totalement imméritée. Jamais cette terre n'a porté un homme qui ait été plus digne d'honneur que Jésus, et nul n'a été plus déshonoré que lui. Si quelqu'un avait le droit d'éprouver de la colère et de l'amertume et un désir de vengeance, c'est bien Jésus. En surtout pas, et surtout pas moi, Henri. Comment donc se maîtrisa-t-il Jésus lorsque des vauriens, des crapules, des assassins, dont il soutenait la vie même, lui ont craché au visage? Voici, en quelques termes, l'apôtre Pierre répond à cette question. Jésus, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, oui, lui, qui insultait, ne rendait pas d'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Premier épître de Pierre, chapitre 2, versets 22 et 23. C'est bien la preuve que Jésus avait foi dans la grâce à venir du juste jugement de Dieu son Père. Il n'avait donc pas besoin de se venger lui-même de toutes les outrages qu'il avait subis, car il remettait sa cause à Dieu, son Père. Il laissait la vengeance à Dieu et il priait pour la repentance même de ses ennemis. Saint Luc chapitre 23, verset 34. Si l'apôtre Pierre présente la foi de Jésus sur cet éclairage-là, eh bien c'est pour que nous apprenions à vivre nous-mêmes de cette sorte. Il a en effet écrit, c'est à cela que Dieu vous a appelé, à endurer patiemment la souffrance. Car le Christ Jésus, il a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 21. Si le Christ Jésus a vaincu l'amertume et les désirs de vengeance par la foi dans la grâce à venir, à combien plus forte raison devrions-nous le faire, nous qui avons beaucoup moins que lui le droit de nous plaindre d'être maltraités comme lui l'a été terriblement. Cependant, une autre question cruciale se pose maintenant. Si c'est en vertu de la promesse du jugement de Dieu à venir que nous devons évacuer nos rancœurs contre nos ennemis qui refusent de se repentir, sur quoi repose l'obligation de pardonner à des frères et sœurs dans la foi qui se repentent? L'indignation morale provoquée par une offense particulièrement grave ne se dissipe certainement pas sous prétexte que son auteur est chrétien. En réalité, le sentiment de trahison est parfois encore beaucoup plus fort. Et un simple « Oh, je regrette, I am sorry », cela nous paraît souvent totalement disproportionné par rapport au caractère douloureux et méprisable de l'offense que nous avons subie. Le problème, c'est que dans ce cas, nous avons affaire à des frères et sœurs dans la foi et que la promesse concernant la colère de Dieu ne s'applique pas. En effet, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1. Car Dieu ne nous a pas destinés, nous les chrétiens, à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Dès lors, comment échapper au dilemme judiciaire? Que devons-nous tourner pour avoir l'assurance que justice sera tout de même faite? Que la foi chrétienne ne bafoue pas la gravité du péché. Eh bien, chers amis, nous devons regarder tout simplement à la croix de Jésus-Christ. Tous les torts qui nous ont été faits par des chrétiens ou autres ont été vengés par la mort de Jésus. C'est ce que implique la réalité aussi simple que extraordinaire que Jésus a pris sur lui, tous les péchés de tous les enfants de Dieu. Notez, s'il vous plaît, Ésaïe 53, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, Galates chapitre 1, verset 4, 1er Épître de Saint Jean chapitre 2, verset 2, chapitre 4, verset 10, et 1er Épître de Pierre chapitre 2, verset 24, et chapitre 3, verset 18. La souffrance endurée par le Christ a été la rétribution de Dieu le Père pour chacun des préjudices que je peux être amené à subir de la part d'un autre chrétien. Notez encore Romains chapitre 4, verset 25, chapitre 8, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, et Galates chapitre 3, verset 13. Par conséquent, la foi chrétienne ne traite nullement le péché à la légère. Elle n'ajoute pas à notre blessure. Bien au contraire, elle prend tellement au sérieux les péchés commis contre nous que pour nous faire justice, Dieu a donné son propre Fils bien-aimé et il l'a fait souffrir plus que nous ne pourrions faire souffrir aucun homme, aucune femme pour ce qu'il nous a fait. J'ajoute parfois le mot « femme » parce que la Bible, elle nomme l'homme qui sous-entend « homme et femme ». Alors, des fois, j'ajoute la femme, parce que la femme, à mon avis personnel, oh, c'est que mon avis personnel, elle est beaucoup plus importante que l'homme. Mais ça engage que moi. Ainsi, quand Dieu dit « à moi la vengeance », le sens de cette affirmation est beaucoup plus fort que ce que nous avions peut-être imaginé. Dieu a en effet prévu deux moyens pour exercer sa vengeance à l'encontre du péché, l'enfer, mais aussi la croix. Tous les péchés auront été vengés sévèrement, complètement et équitablement, soit, écoutez bien, soit en enfer, soit à la croix. Les péchés des impénitents seront vengés en enfer. Et ceux des chrétiens, ils ont été vengés sur la croix, où Jésus-Christ a versé son sang précieux pour toi et pour moi. En conséquence, nous n'avons pas besoin, et encore moins le droit, de nourrir de l'amertume envers les croyants ou les incroyants. Non, non, non. Le dilemme judiciaire, il a été résolu. Dieu est intervenu pour nous libérer de l'obligation morale de réparer les torts que nous avons subie. Il l'a fait, dans une large mesure, en promettant à moi la vengeance. Oui, c'est moi qui rétribuerai. C'est nous le croyons. Si nous le croyons, chers amis, nous ne nous permettrons pas de chercher vengeance par nous-mêmes. Non. Au contraire, nous rendrons témoignage du caractère pleinement suffisant de la croix et à la terrible justice de l'enfer en vivant dans l'assurance absolue que c'est Dieu et non pas nous qui réparera tous les torts. Notre responsabilité, c'est d'aimer. Celle de Dieu, c'est de régler les comptes avec justice. Je répète, notre responsabilité, c'est d'aimer. Celle de Dieu est de régler les comptes avec justice. Quant au secret de la liberté et du pardon, c'est encore et toujours la foi dans la grâce à venir. Amen. La croix, elle appartient au passé. Et je tiens à affirmer qu'il est absolument primordial de regarder régulièrement au calvaire pour en tenir notre foi dans la grâce à venir. Si mon épouse me blesse par une parole désagréable, je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot. Non, non, non. Pourquoi? Mais c'est stupide. Car j'aime ma très sainte épouse et je lui pardonnerai toujours tout. Chers amis, la Sainte Bible présente Dieu comme celui qui non seulement venge les péchés commis contre nous, mais aussi qui pardonne les péchés que nous commettons contre autrui, et oui, et nous commettons sans vouloir des péchés contre certaines personnes. Cet aspect-là aussi est primordial pour briser le lien de l'amertume et de connaître la liberté de pardonner. L'apôtre Paul nous exhorte, il dit « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez donc l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour Jésus. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie. Il a livré à Dieu pour nous sauver. Éphésiens chapitre 4 verset 32 et chapitre 5 verset 2. Ici, notre capacité de pardonner découle donc de la façon dont Dieu traite non pas les péchés commis contre nous, mais ceux que nous commettons contre autrui. Oui, le combat contre l'amertume. Il se mène pas seulement en plaçant notre confiance dans la promesse de Dieu selon laquelle il vengera les torts qui nous sont causés, il se mène aussi en prenant plaisir à être pardonné par Dieu. Comment le fait d'être pardonné fait-il de nous des hommes et des femmes capables de pardonner? Eh bien, ma réponse, en ayant tout simplement l'assurance du pardon, c'est-à-dire en croyant tellement que nous sommes vraiment pardonnés. La foi qui sauve, elle ne consiste pas simplement à croire que l'on est pardonné, c'est goûter à ce pardon en tant qu'attribut de Dieu et en ressentant personnellement à quel point ce pardon est Dieu lui-même, est précieux et admirable. La foi qui sauve, regarde l'horreur du péché. Et puis la sainteté de Dieu, elle comprend au niveau spirituel que le pardon de Dieu est une merveille absolument ineffable. Avoir la foi dans le pardon de Dieu, cela ne signifie pas simplement de croire que l'on est tiré d'affaire. Cela veut aussi dire de savourer la vérité selon laquelle un Dieu qui pardonne est la réalité la plus précieuse de l'univers. Oui, avoir la foi qui sauve, c'est prendre plaisir à être pardonné par Dieu. Et partons de là, de prendre plaisir dans le Dieu qui pardonne et dans tout ce qu'il est pour nous en Jésus. Le grand acte de pardon appartient donc au passé. C'est la croix de Jésus-Christ. En regardant en arrière, nous découvrons la grâce dans laquelle nous serons à jamais établis. Romains chapitre 5, verset 2. Nous apprenons que nous sommes dorés déjà et que nous serons à jamais aimés et acceptés. Oui, nous apprenons que le Dieu vivant est un Dieu qui pardonne. Mais la formidable expérience du pardon de Dieu est entièrement à venir. Oui, la communion avec le grand Dieu qui pardonne est entièrement à venir. La liberté de pardonner, découlant de cette communion pleinement satisfaisante avec le Dieu qui pardonne, est entièrement à venir. J'ai appris que le chrétien peut garder durablement de la rancœur si sa foi signifie simplement qu'il a regardé en arrière, en direction de la croix, et qu'il en a conclu qu'il était tiré d'affaire. J'ai été forcé d'aller plus en profondeur et de toucher au sens de la véritable foi. La véritable foi, elle consiste à trouver le contentement dans tout ce que Dieu est pour nous en Jésus. Elle regarde en arrière, non pas simplement pour découvrir que nous sommes tirés d'affaire, mais pour voir et pour savourer ce Dieu qui nous offre un avenir fait d'innombrables lendemains placés sous le signe de la réconciliation dans la communion avec lui. Il se peut, mes chers amis, que au moment où vous entendez ces paroles, il ne nous vienne à l'esprit ou qu'il vous vienne à l'esprit aucune rancœur entretenue depuis longtemps. Peut-être que Dieu, et ce serait remarquable, vous a totalement libéré des blessures et des déceptions passées, et qu'il a accordé la grâce de vous en être complètement déchargé. Alléluia. Le souffle vicié de l'amertume, qu'elle soit durable ou ponctuelle, ne peut survivre au sentier aérien de la foi dans la grâce à venir. Nous terminons notre étude. La rancœur, elle se nourrit des brumes de l'apitoiement, surtout sur soi-même. Elles ne peuvent survivre au contentement et à la confiance et à la plénitude de la joie que l'on éprouve lorsque l'on trouve sa satisfaction dans le Dieu du pardon. Oui, le Dieu de la grâce à venir. Amen. Amen. Et chers amis, j'ai dans le cœur de vous transmettre encore quelque chose que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. Seigneur, aide-moi à terminer avec et par ton aide, s'il te plaît. Écoutez cela. Seigneur mon Dieu, tu es tout mon bien. Et qui suis-je pour oser te parler? Je suis le plus pauvre de tes serviteurs. Je me souviens cependant, Seigneur, que je ne suis rien, que je n'ai rien, et que je ne puis rien sans ton aide. Tu es seul bon, tu es seul juste et saint. Tu es pour moi tout, tu donnes tout, et tu remplis par ton Esprit Saint toute ma vie. Souviens-toi de ta miséricorde et remplis mon cœur de ta grâce. Toi, qui ne voulais point qu'aucun de tes ouvrages demeure vide, comment puis-je, en cette misérable vie, porter le poids de moi-même si ta miséricorde et ta grâce ne me fortifient? Ne détourne pas de moi ton visage, ne diffère pas à me visiter, ne me retire point ta consolation, de peur te priver de toi, mon âme ne devienne comme une terre sans eau. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Oh, apprends-moi à vivre d'une vie humble et digne de toi, car tu es ma sagesse. Oui, tu me connais dans la vérité et tu m'as connu avant même que je fusse au monde. Amen. Amen. Et chers amis, prions maintenant. Seigneur, nous montons à Jérusalem à ta suite. Avec toi, nous voulons monter, bien que craintifs et parfois effrayés. Nous avons besoin de te suivre dans la mort, puisque tu donnes rendez-vous au calvaire, à toute créature. Si tu es mort, c'est qu'il nous faut mourir. Si pour porter du fruit, tu es tombé en terre, c'est qu'il nous faut être enterré dans le sillon. Et si nous devons souvent avancer à notre tour, sans comprendre, c'est que nous avons besoin de la mort mystérieuse qui explique tout et qui vivifie tout. Attache-nous seulement à Jésus pour que nous passions par le même chemin, oui, par Gethsémané et par Golgotha. Tiens-nous quand nous ne comprenons plus et apprends-nous que notre plus fortifiante nourriture, c'est de souffrir de la part des autres, afin de mieux comprendre que tu as été crucifié, toi, pour nous. Amen. Et chers amis, je vais essayer de vous mettre encore quelques chants d'un très lointain passé. Oh oui, c'est vieux tout cela. Environ 1954. Essayons si cela fonctionne. Thank you.
Yeah.